Suno Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les antibiotiques, c'est notre sujet du jour, car ces médicaments qui ont permis au début du XXe siècle de soigner de redoutables infections ont fini par être prescrits parfois abusivement, y compris pour combattre des infections virales, c'est-à-dire à contre-emploi. Et de cet abus d'antibiotiques, eh bien, on en paye aujourd'hui le prix, un lourd tribut en vie humaine, des combats perdus par exemple contre les formes ultra-résistantes de tuberculose, dont certains traitements à répétition ne parviennent plus à venir à bout. Cette résistance conduit à l'impasse thérapeutique et constitue aux yeux de l'OMS l'une des principales menaces qui pèsent sur la santé mondiale. Ce risque impose une réaction qui met en jeu les patients comme les soignants pour limiter les prescriptions et l'automédication, une implication nécessaire aussi des pouvoirs publics en matière de sensibilisation et de veille sanitaire, du secteur agricole car les animaux d'élevage, oui, prennent eux aussi des antibiotiques. En première ligne enfin les chercheurs, car qui dit traitement inopérant dit besoin de nouveaux principes actifs pour se débarrasser de ces ennemis aussi minuscules que meurtriers, à savoir les microbes. Avec nous en studio, docteur Hyacinthe Ingani, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes président de l'Ordre des pharmaciens du Congo-Brazzaville, président du Bifarm, réseau spécialisé dans la distribution des médicaments en Afrique de l'Ouest. Avec nous également, docteur Prosper Yac, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun et les pharmaciens du Mali, représentés par le docteur Abdelaye Keïta, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes membre suppléant du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Messieurs, vous êtes tous les trois à Paris à l'occasion de la 30e journée nationale de l'Ordre qui s'est tenue hier à la Maison de la Chimie à Paris. Et puis pour comprendre cette résistance aux antibiotiques, nous serons en ligne avec Étienne Ruppé, bactériologiste au laboratoire de bactériologie de l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. En fin d'émission, nous évoquerons la question du don de gamètes, ovocytes et spermatozoïdes. L'Agence de la biomédecine lance une campagne. Nous appellerons le docteur Françoise Merlet, médecin responsable de l'assistance médicale à la procréation. Et puis bien sûr, vos questions, vos témoignages. Le numéro de notre émission Priorité Santé, c'est le 33 1 80 82 75 75. Ils ont rapporté plus de 32 milliards d'euros à l'industrie pharmaceutique en 2015. Leurs ventes ont augmenté de plus d'un tiers entre 2000 et 2010. Ce sont donc ces antibiotiques, cette classe de médicaments, issus d'une découverte aussi révolutionnaire qu'accidentelle. 1928, un médecin britannique, le docteur Alexander Fleming, découvre la pénicilline. Depuis, cette grande famille des antibiotiques s'est considérablement agrandie. Docteur Prosper Yac, il existe différents antibiotiques pour traiter différentes maladies.
Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle généralement les pénicillines. Vous avez les bêta-lactames, vous avez aujourd'hui les quinolones qui sont utilisés. Et chacune de ces catégories d'antibiotiques va cibler une maladie. Alors, c'est pour ça que il faut d'abord connaître la maladie, ce que l'on va soigner, le germe qui est responsable de la pathologie, et ensuite dans l'antibiotique qui va servir à attaquer le germe. Quand on n'a pas fait cette analyse, on ne peut pas soigner correctement, on ne peut pas combattre une bactérie.
Mais ça veut dire que généralement, une pathologie est reliée à une famille de germes ou une sorte de germe, voire carrément un germe spécifique.
Tout à fait.
On n'a pas besoin de faire une analyse, ce qu'on appelle un antibiogramme, de façon systématique.
Oui, alors l'antibiogramme, à mon avis, est un élément essentiel de l'analyse de l'ensemble de la pathologie. Il est important d'avoir un antibiogramme qui vous oriente.
Mais quand même, dans la plupart des cas, quand on va voir un médecin, on n'a pas justement cette donnée, on n'a pas cette analyse, d'autant plus qu'elle peut coûter très cher.
C'est sûr, elle peut coûter très cher. Et donc, à ce moment-là, tout va dépendre du médecin. Tout va dépendre également du pharmacien derrière, au moment où il va faire la délivrance. Le médecin peut, de manière intuitive, dire, bon voilà, je vais prendre une quinolone, je vais prendre une bêta-lactamine, je vais prendre tel autre type d'antibiotiques.
Mais malgré tout, il y a un autre critère. On parle d'antibiotiques, docteur Prosper Yagg, à spectre large. Qu'est-ce que ça veut dire pour le grand public? Comment on explique cette notion de spectre large? Par exemple, il y a quelques jours, dans Priorité Santé, on avait parlé de la pneumonie et on disait, dans ces cas-là, pour les bébés, on prend systématiquement de l'amoxicilline. Pourquoi?
On va prendre l'amoxicilline parce que l'amoxicilline va couvrir une large tranche de bactéries. Elle va donc permettre de cibler large, d'avoir un ciblage qui n'est pas orienté vers une seule bactérie. C'est pour cela qu'on parle de large.
Et on protège davantage l'enfant de cette façon. Docteur Prosper Yagg, au Cameroun, est-ce qu'on consomme beaucoup d'antibiotiques?
Sur l'année 2006, qui est une année intéressante à observer, nous avons consommé pour 15 597 000 euros. De médicaments, ce qui correspond à un peu moins de 11 milliards, ce qui veut dire que les antibiotiques vont représenter à peu près 12% de la consommation de l'ensemble des médicaments qui entrent par les circuits légaux au Cameroun.
Et en termes de tendance, c'est quelque chose qui augmente ou c'est quelque chose qui est plutôt stable?
Non, ça augmente, cela augmente, mais moins qu'avant, parce que évidemment, vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, si bien qu'aujourd'hui, l'augmentation, elle est moins forte que dans certains pays, elle est autour de 10% tous les ans, ce qui va nous conduire en 2017 à peu près à entre 16 et 17 milliards.
Docteur Abdelhaye Keïta.
Millions d'euros, pardon.
Millions d'euros. Docteur Abdelhaye Keïta, est-ce que vous avez des données chiffrées sur la consommation des antibiotiques au Mali?
Oui, merci. Je vous remercie surtout de nous avoir conviés pour cette émission qui vient à point nommé parce qu'on vient de finir avec la semaine vraiment qui a été dédiée par l'OMS pour la résistance aux antimicrobiens. Effectivement, en 2015, il a été estimé au Mali qu'il y avait une forte consommation d'antibiotiques et par rapport à la prescription médicale, les antibiotiques constituaient 60% de prescriptions au niveau public et 39,1% au niveau du privé, alors que la norme conseillée par l'OMS est de 30% au maximum des prescriptions. Et il s'est avéré que sur les 18 millions d'euros de médicaments que nous avons consommés durant l'année, il y a environ 22% de prescriptions d'antibiotiques qui avaient été constatées.
Ça veut dire que, quand vous dites 60%, ça veut dire que plus d'un Malien sur deux, quand il va voir son médecin, il ressort du cabinet avec une ordonnance d'antibiotiques?
Oui, presque au niveau public. Et surtout quand on regarde
en
milieu hospitalier. Quand on regarde un peu la sphère, parce qu'il y a le paludisme qui est, on peut dire, endémique chez nous, ben pour toute prescription de traitement de palud, il y a un antibiotique qui l'accompagne.
Et pourtant, ce n'est pas recommandé.
Non, ce n'est pas du tout
puisque
recommandé.
Puisque c'est un virus.
C'est un parasite à ces niveaux, parce que c'est le parasite qui entraîne le paludisme. Et les antibiotiques n'ont pas d'effet sur le parasite. Donc, c'est en quelque sorte une consommation abusive à ces niveaux.
Au Congo, Congo-Brazzaville, docteur Yacine Tinganyi, est-ce que vous avez, vous aussi, des données chiffrées sur cette consommation d'antibiotiques?
Oui, merci. Alors, si on prend l'ensemble des antibiotiques consommés au Congo, on évalue à peu près à 7 736 000 euros, ce qui représente en valeur à peu près la deuxième consommation de médicaments dans le pays.
C'est quoi la première? Sont des antirétroviraux?
Non, les analgésiques.
Des analgésiques, donc pour la douleur.
Voilà.
Et pour la température également?
Absolument, oui.
Voilà, donc plutôt du paracétamol, ce genre de molécules.
Plutôt, oui, des molécules du genre paracétamol.
Alors, on a bien compris, hein, les antibiotiques, c'est pour soigner les infections bactériennes, donc pas les pathologies parasitaires, pas les virus. pourquoi sont-ils justement, docteur Hyacinthe Ingani, pris pour toute autre chose? C'est une demande des patients ou c'est une précaution, on peut dire, un peu des médecins?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la pression des patients qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a aujourd'hui l'automédication, qui est quand même très forte, qui est favorisée par le fait que il y a une déliance par rapport aux règles encadrant la prescription et la délivrance des antibiotiques. De plus en plus, les antibiotiques sont délivrés sans ordonnance dans les structures pharmaceutiques, et également il y a la prolifération des médicaments vendus dans la rue, et naturellement il y a la méconnaissance des patients.
On va en reparler, mais docteur Hyacinthe Ingani, là on dit les antibiotiques sont trop prescrits, mais il faut encore le souligner, ils sont primordiaux pour combattre certaines maladies. On a parlé récemment, par exemple, de cette épidémie de peste à Madagascar, très important contre la peste, très important contre la pneumonie chez les enfants. Donc il faut pas non plus jeter l'opprobre sur cette classe de médicaments. Et justement, très utile. C'est pour cela que l'OMS dit attention, il faut les garder pour les malades qui en ont vraiment besoin.
Oui, c'est clair. Et particulièrement pour l'Afrique, parce que je crois que la situation est mondiale, mais la situation n'est pas la même dans tous les pays. En France, en Europe, on peut dire aujourd'hui qu'il y a 30% d'antibiotiques qui sont prescrits de façon inappropriée, inutilement. Mais en Afrique, il y a d'abord le problème de l'inaccessibilité des populations aux médicaments. Nous manquons très clairement des médicaments pour soigner nos populations. Mais ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, il y a une mauvaise prescription, une mauvaise dispensation des antibiotiques. C'est clair, c'en est une deuxième.
Des antibiotiques trop prescrits, conséquences tragiques, c'est donc ces bactéries nocives qui deviennent résistantes. C'est l'antibiorésistance. C'est la bande originale du film de Carol Reed, Le troisième homme. Derrière cette mélodie, eh bien, il y a un scénario qui est directement lié à notre sujet du jour, puisque l'intrigue de ce film de 1949 repose sur un trafic mortel de pénicilline avec Orson Welles, hein, le personnage Harry Lime qui est le chef de ce trafic. On va reparler tout à l'heure de ces médicaments frelatés. C'est l'un des sujets directement liés aux antibiotiques, les faux médicaments. L'autre grand sujet, c'est l'antibiorésistance. Et pour en parler avec nous, nous avons en ligne Étienne Ruppé. Étienne Ruppé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bactériologiste au laboratoire de l'hôpital Bichat, Claude Bernard à Paris. Comment se déclenche la résistance aux antibiotiques?
Alors, les bactéries, elles ont deux grands moyens de résister aux antibiotiques. D'une part, elles peuvent avoir des mutations au niveau de leur ADN, et ces mutations peuvent conduire à la résistance aux antibiotiques. Vous avez parlé tout à l'heure des quinolones, c'est le mécanisme principal de résistance aux quinolones chez les bactéries. Donc ça, ce mécanisme-là, il concerne toutes les bactéries. Si vous les mettez en présence d'antibiotiques, tôt ou tard, il y a des mutations que vous allez observer. Bon, par contre, quand vous enlevez l'antibiotique, souvent ces mutations, elles gênent la bactérie par rapport aux populations qui n'ont pas les mutations, et ces mutations vont tendance à se perdre. Et l'autre grand moyen que les bactéries utilisent pour résister aux antibiotiques, c'est d'acquérir des gènes de résistance. Parce que vous savez que les bactéries, elles ont la capacité de s'échanger des morceaux d'ADN, ce que nous, on ne peut pas faire. Et donc, elles acquièrent des gènes de résistance aux antibiotiques, et cette fois, ces gènes de résistance, elles vont pouvoir les garder, et elles vont même pouvoir le transmettre à leurs voisines, par exemple. Et là, ce qui fait que ces gènes de résistance-là vont persister très longtemps. Et c'est ce qui nous inquiète le plus, parce que certains gènes de résistance qui sont très puissants, qui confèrent la résistance à nombreux antibiotiques, eh bien, persistent chez les bactéries, même quand il n'y a plus d'antibiotiques. C'est-à-dire que ces bactéries, maintenant, elles sont à la vie et à la mort avec ces gènes de résistance, et on n'arrive pas à s'en débarrasser.
Et quel est le rôle de la flore intestinale dans la prolifération des mauvaises bactéries, ces bactéries pathogènes ?
Alors, le microbiote intestinal, il faut bien savoir qu'on a autant de bactéries dans notre microbiote intestinal qu'on a nous-mêmes de propres cellules. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près 10 puissance 13. C'est vraiment beaucoup. De ce qui fait que c'est un immense forum pour les bactéries pour justement s'échanger des mécanismes de résistance aux antibiotiques. Et il faut savoir que quand on prend des antibiotiques, que ce soit par voie orale ou par voie injectable, il y a toujours une fraction d'antibiotiques qui se retrouve au niveau du microbiote intestinal. Et donc, ces antibiotiques vont tuer les populations sensibles et vont naturellement promouvoir les populations résistantes. Et donc, les bactéries qui auront acquis les gènes de résistance ou qui auront déjà muté vont être favorisées et vont pouvoir se multiplier au sein de ce microbiote intestinal. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir plus de chances de s'infecter si on doit s'infecter avec ces bactéries-là. Et puis, on va excréter dans la nature, dans l'environnement, et bien beaucoup plus de ces bactéries-là et donc augmenter le risque de contamination des eaux et éventuellement des aliments si les eaux sont maltraitées derrière.
Et une dernière question.
Donc, le microbiote intestinal, c'est une immense chambre de résonance, en fait, de la résistance.
Et justement, Étienne Ruppé, on parle souvent, c'est ma dernière question, de l'importance de prendre, par exemple, de l'ultra-levure, des probiotiques en cas de traitement par antibiotiques. Pourquoi ?
Alors, il n'y a pas une grande évidence sur le rôle des probiotiques, le rôle bénéfique des probiotiques sur la résilience du microbiote intestinal. On pense que ça peut favoriser un meilleur retour du microbiote intestinal à la normale après une prise d'antibiotiques. Bon, ça, c'est avec des probiotiques, j'ai envie de dire, un peu anciens, qu'on prenait de façon un peu empirique. On est en train de travailler, alors nous et puis d'autres équipes dans le monde, sur des probiotiques de nouvelle génération, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus ciblés. Et notamment certains probiotiques qui pourraient inhiber directement les bactéries multirésistantes dont on parle. Il faut savoir que notre microbiote intestinal n'aime pas vraiment que des bactéries résistantes s'y installent. Il s'oppose naturellement à ces bactéries-là. Donc si on arrive à identifier ces bonnes bactéries qui arrivent à expulser les indésirables et à les faire prendre ensuite, comme on prend aujourd'hui de l'ultra-levure, eh bien on aura fait un grand pas dans la lutte contre la multirésistance.
Merci beaucoup Étienne Ruppé. Je rappelle que vous êtes bactériologiste au laboratoire de l'hôpital Bichat. Claude Bernard à Paris, résistance aux antibiotiques. On le voit pour les humains, cette façon justement de pouvoir continuer à prendre ces médicaments, c'est de résister de l'intérieur, mais aussi de sensibiliser bien les populations. Docteur Yacine Ingani, plusieurs causes, il faut agir à plusieurs niveaux pour combattre cette résistance aux antibiotiques qui est pointée par l'Organisation mondiale de la santé notamment.
Oui, absolument. Aujourd'hui, on peut dire que l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation de la santé animale, est en pris en quelque sorte en main le problème de la résistance aux antibiotiques. Et en 2015, l'Organisation mondiale de la santé a arrêté un plan de lutte contre l'antibio-résistance et a demandé à chaque pays, à chaque nation, d'adopter un plan national pour lutter contre l'antibio-résistance. Ce plan tourne autour de 5 objectifs à peu près.
Avec notamment la sensibilisation des populations. Docteur Prosper Yag au Cameroun, est-ce que le message passe? Est-ce que les gens comprennent que les antibiotiques, il ne faut pas les prendre systématiquement?
Non, clairement non.
Les mauvaises pratiques continuent.
Les mauvaises pratiques continuent. Cette sensibilisation n'a pas encore véritablement démarré.
Et qu'est-ce qu'il faut changer, justement? Quel message faut-il faire passer pour que les gens comprennent que si on en prend trop, finalement, au bout du compte, on ne pourra plus du tout en prendre de ces antibiotiques quand ils ne marcheront plus?
Je pense qu'il faut réellement s'engager dans une campagne de sensibilisation, d'information, d'éducation de nos populations, mais aussi de formation des professionnels de santé.
Puisque des médecins continuent d'en délivrer, peut dire, à tour de bras.
À tour de bras, mais aussi des pharmaciens qui n'hésitent pas, dans leur officine, à donner également des antibiotiques.
Sans que ce soit
une sous prescription médicale, sans que ce soit absolument nécessaire. Donc, je pense qu'il est important, de mon point de vue, que cette sensibilisation soit faite
à plusieurs niveaux. D'accord. Vous restez avec nous, messieurs, docteur Yacine Ingani, Prosper Yag, docteur Abdelaye Keïta. On se retrouve dans quelques petites minutes, juste après le point d'information, toujours pour parler des antibiotiques.
Du 17 au 20.
Priorité santé. Caroline Paré.
On retrouve nos invités en studio pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée aux antibiotiques avec le docteur Prosper Yag, président du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens du Cameroun, le docteur Hyacinthe Ingani, président de l'Ordre des Pharmaciens du Congo-Brazzaville et le docteur Abdelaye Keïta, membre suppléant du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens du Mali. On a parlé de l'antibiorésistance, on va d'ailleurs en reparler dans quelques minutes en évoquant les différents plans au niveau national qui ont été mis en place pour tenter de limiter ce grand danger mis en lumière par l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais on va d'abord reparler des médicaments frelatés, ces faux médicaments, médicaments par terre, c'est comme ça qu'on les appelle dans certaines capitales africaines. Et on va justement donner la parole aux auditeurs de RFI dans quelques minutes pour des témoignages au sujet justement de ce marché des médicaments frelatés. D'abord, un véritable problème pour toute la sous-région. Docteur Prosper Yag, ces faux antibiotiques, c'est un véritable problème au Cameroun?
Oui, c'est un vrai problème parce qu'on a encore beaucoup de médicaments dans la rue. On a des médicaments dans la rue parce que nous n'avons pas complètement réussi la lutte contre ce phénomène. De l'autre côté, il y a un problème de pouvoir d'achat. C'est comme cela que certains expliquent les comportements de ceux qui vont dans la rue. Et enfin, on n'a pas encore une industrie locale capable de nous produire des médicaments de qualité et pour qu'on puisse être moins dépendant de l'extérieur. Maintenant, au Cameroun, ce qu'on a essayé de faire pour lutter contre le phénomène, non pas des faux médicaments, des faux antibiotiques, mais de manière générale de l'antibiorésistance. Je ne sais pas si on en parle maintenant.
On va en parler un petit peu plus tard, parce que je voudrais demander justement une forme de témoignage aussi au docteur Hyacinthe Ingani pour le Congo-Brazzaville. Les gens achètent des médicaments dans la rue parce que c'est moins cher qu'à la pharmacie, il faut le dire concrètement. C'est pas pour rien que c'est moins cher, puisque dedans, il n'y a pas les principes actifs. Alors, se dire que même des médicaments génériques, des antibiotiques génériques, c'est trop cher pour la population, pour les malades, pour se soigner?
Non, mais justement, là, c'est le problème. Il est incontestable que les gens achètent les médicaments dans la rue parce que ils n'ont pas suffisamment d'argent, pour acheter les médicaments dans les pharmacies. Il y a généralement ce qu'on a pu appeler une inadéquation entre l'offre et la demande. Ce phénomène est donc connu, ces raisons sont connues. La solution, c'est justement les médicaments génériques qui ont un coût et un prix relativement bas. Mais tout le problème aujourd'hui, c'est que dans nos différents pays, la promotion, la communication sur ces médicaments génériques n'est pas suffisamment faite. À titre personnel, lorsque j'étais encore au Parlement congolais, j'ai fait voter une loi sur le déconditionnement et la substitution. Malheureusement, les autorités publiques n'ont pas fait le travail ensuite pour prendre les décrets irrelatif et pour communiquer suffisamment sur l'intérêt de ces médicaments génériques pour lutter justement contre la vente illicite des médicaments dans la rue.
Un témoignage justement sur ces médicaments dans la rue, c'est en ligne du tchat de Djamena, Abdoulaye, qui est avec nous. Bonjour Abdoulaye.
Oui, bonjour madame.
On écoute votre témoignage.
Oui, bon, ici au Tchad, les gens ont l'habitude de consommer assez abusivement les antibiotiques. Moi, personnellement, c'est récemment que j'ai appris que la consommation abusive des antibiotiques est très dangereuse. J'ai l'habitude aussi de consommer, d'acheter ces médicaments, c'est-à-dire au marché. J'apprends que les antibiotiques sont frelatés quelque part aussi. Ici, en Djamena, on a vraiment l'habitude de consommer des antibiotiques quand on est blessé.
On vous écoute, Abdoulaye, oui. Ah, la ligne ne passe plus. Hein. On a un problème de communication avec Abdoulaye, à moins qu'on réessaye à nouveau. Abdoulaye, qu'est-ce que vous nous disiez?
Oui, j'ai dit, ici, au Tchad, les gens consomment assez abusivement des antibiotiques. Moi, personnellement...
Non, la ligne s'est dégradée. En tout cas, ce qu'on a bien compris, c'est que même si vous étiez au courant qu'il y avait des problèmes, des risques de médicaments frelatés, vous continuez à acheter ces médicaments dans la rue. Docteur Abdoulaye Keïta, au Mali aussi, on rencontre ce phénomène. Comment, justement, on peut sensibiliser la population sur ce véritable danger? Non seulement il peut y avoir des produits qui ne marchent pas, mais en plus, il peut y avoir dans ces médicaments des produits dangereux.
Oui, effectivement... Ce problème, je peux dire que ça concerne toute l'Afrique, même si on peut dire qu'il est mondial, mais ça concerne beaucoup plus l'Afrique, parce que les gens, ils se baladent avec ces molécules sur des plateaux, et c'est au vu au sud de tout le monde. On est en train d'essayer de lutter, on a essayé par des sensibilisations, jusqu'à présent ça continue. Juste pour un peu expliquer, donner juste une anecdote, nous avons fait un travail avec l'ambassade américaine au Mali. Ils ont fait des prélèvements d'échantillons au niveau de différentes structures publiques et privées. Et ils ont vu, je prends juste le cas d'une seule molécule qui est la ciprofloxacine, qui est un antibiotique, comme on l'a dit, à spectre large, et qui est utilisé un peu comme des cacahuètes, au fait, si je peux le dire, parce que les gens, ils le prennent à tout bout de champ. Et quand ils ont analysé sur tout le lot qui a été prélevé, il n'y avait que 5% qui avaient des principes actifs.
Ça veut dire que l'autre, c'était de la poudre blanche, ça ne sert à rien.
C'était des sémoules, ils avaient de la sémoule de maïs qui était dedans. Et ils ont trouvé, malheureusement, aussi des traces de Viagra. Du coup, on se pose des questions.
Mais y compris dans des officines publiques.
Y compris dans des officines publiques, parce que malheureusement, c'est arrivé et ça s'est retrouvé dans le circuit normal. C'est là la grosse difficulté qu'on n'arrive pas encore à maîtriser, des médicaments qui rentrent par des chemins tortueux et quelques rares fois se retrouvent dans le circuit normal.
Ça veut dire que ça se fait bien avant la distribution, veut dire que ça se fait au niveau, quand ça arrive très certainement aux frontières, lors des transporteurs malveillants, des trafiquants qui utilisent les réseaux officiels pour fournir les pharmacies officielles.
Effectivement.
On va prendre un autre auditeur, il est en ligne de Côte d'Ivoire, de San Pedro, c'est Moustapha. Bonjour Moustapha.
Bonjour Caroline.
On écoute votre témoignage.
Oui, moi j'ai évoqué un peu le problème des antibiotiques parce que j'en ai tellement consommé qu'à chaque consultation, les personnes me prescrivent des antibiotiques. Bon, on a tellement consommé que maintenant on a peur que cela peut développer des résistances dans notre corps. Donc c'était un peu mon témoignage. Voilà la vie des antibiotiques. Et j'ai vraiment l'achat dans les pharmacies. Est-ce que cela n'est pas plus que des résistances ?
Moustapha, qui nous permet de faire le lien justement entre le fait qu'il aille à la pharmacie pour chercher ses antibiotiques, docteur Prosper Yag, il y a des choses quand même qui sont faites concrètement pour lutter contre cette antibiorésistance quand il y a un abus d'antibiotiques. Pour votre pays, le Cameroun, qu'est-ce que vous citeriez justement comme initiative ?
D'abord, le travail très intéressant qui a été fait par le Centre Pasteur au Cameroun, qui est un grand centre de recherche, un grand centre d'analyse biologique, qui a suivi un programme de surveillance de la résistance de l'évolution de Neisseria gonorrhoeae, par exemple, pour la gonococcie, et qui s'est rendu compte de ce que, entre 2008 et 2015, Ces bactéries étaient devenues résistantes à la cipro. Bon, la tétracycline avait déjà été dégagée, mais également la ceftriaxone. Et donc, finalement, il n'y avait que l'aspectonome ici qui pouvait être utilisé pour lutter contre ces bactéries. Il y a, depuis donc cette période, on peut s'appuyer sur les travaux qui ont été faits par le Centre Pasteur. Il y a également la réhabilitation du Laboratoire national de santé publique, dont les capacités ont été renforcées dernièrement et qui va devenir un centre de référence pour la surveillance des épidémies et des pandémies au Cameroun. Là, on compte beaucoup sur ce laboratoire qui va être le point focal de toute la coordination avec les vétérinaires dont parlait Ingani tout à l'heure, mais les agriculteurs également qui ont un point focal et tout ceci, l'environnement, va être coordonné par ce laboratoire pour observer et pour proposer des solutions par la suite au gouvernement pour agir sur le terrain de l'antibiothérapie.
Parce que le grand public ne le sait pas forcément, les animaux d'élevage eux aussi prennent des antibiotiques. Oui. Non seulement on pense aux Occidents, hein, ces grands élevages de batteries pour ne pas qu'il y ait de prolifération de maladies, mais aussi parce que dans certains cas, ça permet tout simplement de prendre plus de poids et donc de mieux vendre la viande d'élevage.
Mais tout à fait, et ce, malheureusement,
donc
cette viande...
Donc un contre-emploi absolu.
Absolument, cette viande là se retrouve dans nos marchés et elle est consommée et il y a des résidus que l'on trouve, mais il y a aussi toutes ces viandes que nous mangeons qui viennent de la brousse, qui viennent de partout, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme germe là-dedans? Qu'est-ce que nous consommons vraiment? Tout cela doit être contrôlé.
Docteur Prosperiac, vous insistiez justement sur cette veille sanitaire. Du côté du Mali, docteur Abdelaye Keïta, qu'est-ce qui est fait pour surveiller justement ce qui se passe? Quelle maladie aujourd'hui résiste à tel ou tel antibiotique? On pointe en particulier les cas de tuberculose. Est-ce que c'est vrai aussi pour votre pays, le Mali?
Oui, effectivement, c'est vrai. Bon, déjà, je vais juste rebondir par rapport au plan mondial de lutte contre la résistance.
De l'Organisation mondiale de la santé.
Oh, bon, juste pour ne pas, c'était juste pour améliorer parce que c'est pas seulement l'Organisation mondiale de la santé, il y a l'OIE, il y a le FAO, donc c'est un plan tripartite.
Alimentation,
élevage, donc tout ce qui concerne l'agriculture, l'élevage et également la santé. Et vous l'aviez dit également, il y a, par rapport à la consommation d'antibiotiques, il y a 50% déjà des antibiotiques qui sont produits dans le monde qui sont destinés aux animaux. Donc nous humains, nous prenons 50%. Donc quand on doit vraiment lutter, il faut voir des deux côtés, ne pas se limiter à un seul volet. Donc avec ce plan mondial, on a mis en place un cadre. Et dans ce cadre, toutes les instances interviennent pour que même au niveau de ceux qui sont administratifs, ils puissent participer. Que ce ne soit pas seulement technique, c'est là où l'Ordre est intervenu et l'Ordre a un volet de sensibilisation et un volet de formation au niveau des structures d'officine qui font la délivrance des molécules parce que malheureusement les prescriptions elles ne sont pas tout à fait bien coordonnées et souvent il y a des défauts. Et ensuite le gros avantage aussi c'est qu'on a l'assurance maladie qui nous aide énormément en ce sens. C'est que, mais malheureusement, ça ne couvre qu'une petite partie de la population, environ que 22% de cette population. Bon, ça, c'est pris au niveau de ceux qui sont fonctionnaires et salariés. Il y a les privés qui ont commencé, qui ne couvrent que 5%. Si on arrive à couvrir le maximum de population, ça va minimiser l'utilisation des achats de médicaments dans la rue, qui me permet juste de dire qu'au Mali, on a constaté que si on vérifie, en réalité, c'est pas moins cher dans la rue que dans les officines. Mais malheureusement, les gens vont dans la rue, ils achètent par comprimé. Donc, vu qu'ils ne peuvent pas acheter une plaquette à l'officine, ils viennent acheter un comprimé, ensuite ils reviennent acheter l'autre comprimé. Avec les centres de santé communautaires qui sont aussi très proches, ça permet de résoudre également ce problème.
Docteur Yacine Tingani, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait réfléchir, par exemple, à vendre ces prescriptions d'antibiotiques à l'unité pour que les gens ne soient pas tentés, justement, d'aller vers la rue? On est vraiment à chaque fois à cheval sur ces deux problématiques, hein, résistance et faux médicaments. Les deux sont liés puisqu'on parle du principe actif. Et puis l'autre question que je voulais vous poser pour le Congo-Brazzaville, c'est justement, là encore, sur la surveillance sanitaire de ces antibiorésistances.
Alors, la vente à l'unité, il y a une grosse réflexion là-dessus. Et elle est intéressante. Pourquoi? Elle est intéressante parce qu'elle permettrait de délivrer exactement le nombre de comprimés ou de gélules dont le patient a besoin. Et d'éviter que, par exemple, les patients, après le traitement, ne jettent les gélules ou les comprimés antibiotiques dans la nature, ce qui contribuerait également à développer la résistance aux bactéries.
Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il nous reste des comprimés et qu'on les utilise sans être tourné chez le médecin. Ça aussi, ça peut arriver.
Ou
aux enfants ou à des personnes sans prescription.
Absolument. Alors, deuxième chose, s'agissant de l'activité de veille sanitaire au Congo, on on ne peut pas dire que aujourd'hui il y ait une activité de veille sanitaire efficiente. En revanche, je me réjouis du fait que grâce à l'intervention de l'OMS, on est en train de mettre un plan de lutte contre la résistance bactérienne aux antibiotiques dans le pays. Le travail est en train de se mettre en place.
Par exemple, au niveau de la formation, qu'est-ce qui est fait, docteur Yassin Tingani, au Congo-Brazzaville?
Écoutez, il y a un an, l'Ordre des pharmaciens a organisé des journées scientifiques sur le thème justement de la résistance aux antimicrobiens. Et la semaine passée, un focus a été organisé à Brazzaville par l'OMS et qui a regroupé un panel de qui regroupant à la fois les professionnels, les consommateurs, les journalistes, justement pour sensibiliser sur cette question-là et permettre aux uns aux autres de comprendre en quelque sorte les mécanismes qui conduisent à cette résistance des bactéries aux antibiotiques.
Tour de table au Cameroun, docteur Prosperiag, en matière de formation, qu'est-ce qui est fait justement? On a vu justement qu'il y a de très nombreux acteurs qui sont concernés. Il y a aussi les infirmiers, il y a les personnels hospitaliers, toutes les personnes qui peuvent délivrer justement ces ordonnances. Comment est-ce qu'on sensibilise ces acteurs de santé justement pour limiter les prescriptions?
Alors, nous sommes au début du plan. Nous sommes au niveau 1. C'est-à-dire, nous mettons le dispositif en place pour justement sensibiliser demain, disséminer l'information et former le personnel soignant. C'est important. Il est important qu'on ait de bonnes prescriptions, ça on l'a dit, une bonne dispensation à l'officine et une bonne observance des traitements. Et les trois devraient aller ensemble. Et puis derrière, il faut de bons médicaments. Je reviens là-dessus pour dire que malheureusement, il ne peut pas y avoir dans une catégorie, pour une même molécule dans un pays, une différence de 1 à 10 dans le circuit illicite, légal. Ça pose problème.
Dans le prix.
Mmh. Alors, parce qu'on nous a dit d'aller vers plus d'accessibilité, mais pas l'accessibilité pas à n'importe quel prix. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec un médicament qui n'a rien, même à l'officine. Ça, c'est quelque chose que je voulais rajouter ici.
Et justement, pour les génériques au Cameroun, c'est quelque chose qui est accessible? En tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui est compris par la population? Parce que ici en France, de nombreux patients, de nombreux malades veulent le médicament qui a la marque et refusent le substitut, même si à terme, il n'y a plus de remboursement par la Sécurité sociale quand on s'y oppose de cette manière. Mais il y a encore un certain nombre de résistances. Est-ce qu'il y a à peu près la même chose dans vos pays, par exemple au Cameroun, docteur Yag?
Oui, alors nous sommes vos héritiers. Donc nous avons résisté aux antibiotiques comme vous. Aux génériques comme vous. Mais progressivement, le générique rentre dans les mœurs. Des patients, des clients arrivent à l'officine et demandent le médicament générique et la plupart du temps, le pharmacien essaye de donner satisfaction à son patient.
Docteur Abdelhaye Keïta, au Mali aussi, le générique peut être une solution justement pour lutter contre les faux médicaments qui à terme aussi contribuent quand même à l'antibiorésistance.
Oui, effectivement, le générique a été une bonne passerelle parce que depuis 1988, il y avait l'initiative de Bamako qui a fait venir ces génériques. C'est vrai qu'il y a des dérives qui sont arrivées, sinon c'est bien apprécié. À part quelques-uns qui nous disent qu'ils veulent pas de la médecine à moindre coût, qui disent que ces génériques c'est tellement moins cher qu'on se pose si la qualité y est. Je ne sais pas si c'est d'ordre psychologique. Il y a d'autres même qui disent non, quand je prends un antibiotique générique, je ne suis pas guéri. Par contre, quand je prends l'équivalent en spécialité, en une semaine, c'est bon.
Alors que c'est faux, puisque c'est exactement le même principe actif dans le médicament, on va dire, de marque et ce médicament générique. Mieux utiliser les antibiotiques, les prescrire de façon adéquate pour la bonne durée, pour limiter l'expansion des maladies pharmacorésistantes, ces nouvelles bactéries qui constituent une menace pour les progrès de la médecine moderne, préoccupation internationale. Aujourd'hui, une cinquantaine de nouveaux antibiotiques et de produits biologiques en développement clinique. C'est un autre sujet d'ailleurs, ces recherches pour trouver de nouvelles molécules. On en parlera lors d'une prochaine émission. Très important, ces découvertes futures pour les patients, pour le corps médical. Et ce qui est important aussi, ce sont ces politiques de santé publique avec jusqu'au secteur agricole impliqué dans la lutte contre l'antibiorésistance. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Docteur Hyacinthe Ingani, pharmacien, président de l'Ordre des pharmaciens du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, docteur Prosper Yac, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Et vous, Abdelaye Keïta, membre suppléant du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Merci d'être venu ici à Paris dans les studios de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est une campagne que lance l'agence de biomédecine. Objectif, sensibiliser le public sur l'importance du don d'ovocytes, de spermatozoïdes. L'enjeu, trouver de nouveaux donneurs potentiels. Avec nous, pour en parler, docteur Françoise Merlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin responsable de l'assistance médicale à la procréation à l'agence de la biomédecine. Pourquoi lancer cette campagne aujourd'hui ?
Alors, c'est très important. Il manque des donneurs aujourd'hui, des donneurs de gamètes, donc de spermatozoïdes et d'ovocytes, pour répondre à la demande de tous ces couples infertiles qui ont besoin de gamètes d'une autre personne parce qu'ils n'en ont pas assez eux-mêmes, que la qualité de ces gamètes ne permet pas d'être fécondés ou de féconder. Et donc, c'est important. Ces couples infertiles attendent longtemps. Ils ont souvent un long parcours derrière eux. Ils attendent longtemps pour pouvoir bénéficier d'un don de gamètes en France. Et voilà, donc nous faisons cette campagne, renouvelons cette campagne là durant le mois de novembre. Ces campagnes d'information, nous les faisons depuis 2008. Voilà, il y a une progression, mais qui reste encore insuffisante. Et nous avons un objectif prioritaire, qui est de recruter de nouveaux donneurs, de nouvelles donneuses. Pour répondre à cette demande.
Alors, quelles sont les conditions requises, justement, pour devenir donneur ou donneuse ?
Alors, d'abord, il y a deux conditions. D'abord, être en bonne santé, hein, c'est du bon sens. Et puis, avoir moins de 37 ans quand on est une femme et qu'on souhaite donner des ovocytes, et moins de 45 quand on est un homme. Et des informations dont on a besoin pour réfléchir à cette démarche, à donner ses gamètes, sont disponibles sur deux sites que l'agence a mis à disposition du public, dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Et quand on va sur ce site, sur ces sites, on obtient toutes les informations et les réponses aux questions qu'on se pose. Et puis surtout, on a la possibilité de contacter l'équipe médicale du centre le plus proche. C'est facile, on rentre le code postal de sa résidence, son lieu de résidence. Et là, on est accueilli par une équipe compétente qui répond à toutes les questions.
Alors, quel est le sentiment qui motive, qui anime ces donneurs ?
Alors, clairement, le don d'ovocytes et le don de spermatozoïdes s'inscrit dans le don d'éléments du corps humain, c'est-à-dire qu'en France, le don est gratuit, anonyme et strictement, librement consenti. Alors, gratuit, ça veut dire qu'on n'est pas payé pour donner ses gamètes, ça veut dire qu'on n'a pas de motivation financière. Les motivations pour le don de gamètes, comme pour les autres dons d'éléments du corps humain, c'est l'altruisme, la solidarité, la générosité, c'est ça qui motive pour donner ses gamètes. Et puis c'est anonyme, donc on donne pas des gamètes à un couple que l'on connaît. Et le couple qui va bénéficier de ces gamètes ne va pas connaître l'identité du donneur ou de la donneuse. Les enfants qui en sont issus n'en connaîtront pas non plus ces identités, l'identité du donneur ou des donneuses qui ont contribué à sa conception. Et puis, c'est librement consenti, c'est-à-dire que la personne qui souhaite donner doit avoir obtenu toutes les informations nécessaires sur le cadre qui s'applique, le cadre législatif et réglementaire qui s'applique, mais aussi sur comment ça se passe concrètement. Voilà, et on vérifie que cette personne n'a pas subi de pression pour donner ses gamètes. Elle le fait de façon libre et consentie, et donc elle va signer un consentement devant l'équipe médicale. Par écrit.
Est-ce qu'en général, c'est une démarche dont ces personnes parlent en public, dans leur entourage ? Autrement dit, est-ce que c'est une démarche qui est assumée, même si elle repose, hein, vous le disiez, sur un sentiment d'altruisme ? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de l'intime ou même, des fois, du public ?
Alors, je pense qu'il y a une certaine fierté à avoir été donneuse de gamètes, comme il y en a pour le don de sang. Ensuite, c'est quand même un don qui est mûrement réfléchi, qui est très particulier, qui est très engageant. Je ne suis pas certaine que tous les donneurs et donneuses en parlent très, très facilement autour d'eux, même s'il y a cette fierté. Souvent, ils ont été sensibilisés par la proximité dans leur entourage, d'un couple qui avait besoin d'un don de gamète. Hein. Et donc, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent que ce don a permis à un autre couple, à plusieurs couples d'ailleurs, de vivre la grossesse et d'avoir un enfant maintenant. Et donc, je pense que c'est une grande fierté.
On a parlé du profil de ces donneurs, du moins leur âge, leurs conditions de santé. Maintenant, du côté des personnes susceptibles de recevoir ce don, qui sont ces personnes qui sont donc certainement appelées à devenir parents?
Donc, ce sont des couples qui ne peuvent pas procréer avec leurs propres gamètes. Hein. Ce sont des couples qui sont en âge de procréer, qui souhaitent fonder une famille hein, et qui ont souvent un long parcours derrière eux hein, d'infertilité, d'espoir, d'une succession d'espoirs et d'échecs, et parfois des traitements d'assistance médicale à la procréation qui se sont succédés sans qu'il y ait de grossesse et d'enfants nés. Donc c'est un long parcours, c'est une souffrance, et alors confronté à un long délai d'attente alors que c'est leur seule chance maintenant à ce stade de devenir parents, c'est vraiment très très lourd.
Une dernière question, docteur Françoise Merlet, en quelques secondes. Aujourd'hui, c'est quoi le délai d'attente? Vous parliez une longue attente parfois, c'est combien de temps?
Alors pour le don d'ovocytes, on va estimer ça, on n'a pas de chiffre très précis, mais c'est entre 1 et 3 ans en fonction de différentes circonstances, des centres et de la période. Donc on va dire entre 1 et 3 ans, et c'est beaucoup trop long pour ces couples qui ont déjà pas mal souffert.
Merci beaucoup docteur Françoise Merlet. Je rappelle que vous êtes médecin responsable de l'assistance médicale à la procréation à l'Agence de biomédecine. Notre émission touche à sa fin. Demain, dans Priorité Santé, on parlera de la santé pendant la grossesse, petit ou gros souci.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.